Chapitre 14, Témoignage pour l'Église. À mesure que la fin approche et que s'étend la proclamation du dernier avertissement au monde, il devient plus important que ceux qui acceptent la vérité possèdent une claire intelligence de la nature et de l'influence des témoignages que, dans sa providence, Dieu a liés au message du troisième ange dès son origine. Dans les temps anciens, Dieu a parlé aux hommes par la bouche des prophètes et des apôtres. À notre époque, il leur parle par les témoignages de son esprit. Jamais Dieu n'a enseigné à son peuple avec plus de sollicitude que maintenant la voie qu'il doit suivre. Des avertissements et des reproches ont été donnés aux égarés parmi les adventistes du septième jour, non parce que leur vie mérite d'être blâmée plus que celle des chrétiens des autres églises, ni parce que leurs actes ou leurs exemples sont pires que ceux des adventistes qui ne veulent pas obéir aux exigences de la loi de Dieu, mais parce qu'ils possèdent plus de lumière et que par leur profession de foi ils ont pris position comme le peuple de Dieu, spécial, élu, ayant sa loi écrite dans leur cœur. J'ai souvent envoyé par écrit des messages destinés à différentes personnes, ceci sur la demande expresse de beaucoup d'entre elles. À mesure que mon travail augmentait, cela devenait une partie importante et fatigante de mes occupations. Dans une vision qui m'a été donnée il y a une vingtaine d'années, 1871, j'ai été amené à donner des principes généraux par la parole et par la plume et à signaler en même temps les dangers, les erreurs et les péchés de certains afin que tous puissent être avertis, repris, conseillés. J'ai vu que tous devaient sonder leur cœur et leur vie afin de s'assurer qu'ils ne sont pas coupables des torts reprochés aux autres et que les avertissements qui sont donnés à d'autres ne s'appliquent pas à leur propre cas. S'il en est ainsi, ils devraient sentir que les conseils et les admonestations ont été donnés spécialement pour eux et faire de ces avis une application aussi pratique que s'ils leur avaient été adressés personnellement. Dieu désire éprouver la foi de ceux qui prétendent être les disciples du Christ. Il éprouvera la sincérité des prières de tous ceux qui déclarent vouloir sincèrement connaître la volonté divine à leur égard. Il mettra en évidence leurs devoirs, leur donnant ainsi l'occasion de manifester ce qui est dans leur cœur. Le Seigneur reprend et châtie le peuple qui déclare observer sa loi. Il signale ses péchés, les met à nu, parce qu'il veut le séparer de toute iniquité et de toute méchanceté, et lui permettre d'atteindre la perfection dans sa crainte. Dieu le reprend, le censure, le châtie, afin de l'affiner, de le sanctifier, de l'élever et de lui permettre finalement de monter jusqu'à son trône. Pour diriger les hommes vers la Bible. Les témoignages écrits ne sont pas destinés à apporter de nouvelles lumières, mais à graver d'une manière plus vivante dans les cœurs les vérités déjà révélées. Le devoir de l'homme envers Dieu, et envers ses semblables a été distinctement indiqué dans la parole de Dieu. Cependant, peu d'entre vous marchent selon la lumière reçue. Des vérités supplémentaires ne sont pas envoyées, mais à l'aide des témoignages, Dieu a simplifié les grandes vérités déjà données, et par le moyen qu'il a choisi il les a présentées afin de réveiller et de toucher les esprits de façon que personne ne cherche à donner une excuse de son ignorance. Les témoignages n'ont pas pour but d'amoindrir la parole de Dieu, mais de l'exalter, d'attirer sur elle l'attention afin que la merveille simplicité de la vérité touche tous les cœurs. Mais l'Esprit n'est pas donné, et il ne le sera jamais, pour remplacer les Écritures. Celles-ci déclarent positivement que la parole est la pierre de touche de tout enseignement et de toute vie morale. L'apôtre Jean a écrit : N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et le prophète Ésaïe, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Frère R. Jette la confusion dans les esprits en cherchant à montrer que la lumière que Dieu a donnée par les témoignages est une addition à la parole de Dieu. Mais il présente le sujet sous un faux jour. Dieu a jugé à propos d'agir ainsi pour attirer l'attention de son peuple sur sa parole afin de lui en donner une intelligence plus claire. La parole de Dieu est suffisante pour éclairer les esprits les plus enténébrés et elle peut être comprise par tous ceux qui en ont le désir. Malgré cela, certains qui déclarent faire de la parole de Dieu leur étude vivent en opposition directe avec ses enseignements les plus simples. Alors, afin que les hommes et femmes n'aient aucune excuse, Dieu leur envoie des témoignages directs et précis, les ramenant à la parole qu'ils ont négligé de suivre. Celle-ci abonde en principes généraux destinés à former de bonnes habitudes et les témoignages généraux et personnels ont pour but d'attirer l'attention spécialement sur ces principes. Je pris la Bible et je l'entourai de quelques témoignages pour l'Église, donnés pour le peuple de Dieu. Là, dis-je, on considère le cas de presque tous les croyants. Les péchés qu'il faut éviter sont mis en relief. On trouvera dans cette lecture des conseils qui ont été donnés pour d'autres cas similaires. Il a plu à Dieu de vous prescrire ligne sur ligne, précepte sur précepte, mais peu d'entre vous savent vraiment ce que contiennent les témoignages. Les saintes Écritures ne vous sont pas familières. Si vous aviez fait de la parole de Dieu votre étude avec le désir d'atteindre l'idéal biblique et la perfection chrétienne, vous n'auriez pas eu besoin des témoignages. C'est parce que vous avez négligé d'étudier les Écritures que Dieu a cherché à vous atteindre par des témoignages simples et directs, attirant votre attention sur les paroles inspirées auxquelles vous n'avez pas obéi, et vous exhortant à accorder vos vies avec ces enseignants purs et élevés. Jugez les témoignages d'après leurs fruits. Que l'on juge les témoignages d'après leurs fruits. Quel est l'esprit de leur enseignement? Quel a été le résultat de leur influence? Tous ceux qui le désirent peuvent connaître les fruits de ces visions. Pendant 17 ans, il a plu à Dieu de les laisser survivre et de les affermir malgré l'opposition des forces de Satan et l'influence des agents humains qui l'ont secondé dans son œuvre. Ou bien Dieu enseigne son Église, la reprenant pour ses fautes et affermissant sa foi, ou bien il ne le fait pas. Cette œuvre est de Dieu ou elle ne l'est pas. Dieu ne fait rien en collaboration avec Satan. Mon œuvre porte le sceau de Dieu ou le sceau de l'ennemi. Il ne peut y avoir de demi-mesure dans cette affaire. Les témoignages viennent de l'Esprit de Dieu ou du diable. Tandis que le Seigneur s'est manifesté par l'esprit de prophétie, le passé, le présent et l'avenir ont été déroulés devant moi. Il m'a été montré des visages que je n'avais jamais vus et des années plus tard je les ai reconnus quand je me suis trouvé en leur présence. J'ai parfois été brusquement arraché au sommeil avec un sens très vif des sujets qui précédemment avaient été présentés à mon esprit. Et au milieu de la nuit j'ai écrit des lettres qui ont traversé le continent et qui, arrivant en pleine crise, ont sauvé la cause de Dieu de grands désastres. C'est en cela qu'a consisté ma tâche pendant de longues années. Une puissance m'a obligé à désapprouver et à censurer des péchés auxquels je n'avais jamais pensé. Cette œuvre des 36 dernières années est-elle d'en haut ou d'en bas? Le but de Satan est de semer le doute. Dans bien des cas, les témoignages sont entièrement reçus, le péché est brisé et rejeté, et une réforme commence immédiatement en harmonie avec la lumière donnée par Dieu. Dans d'autres cas, des complaisances coupables sont caressées, les témoignages rejetés et beaucoup de faux prétextes avancés à l'appui de cette attitude. Mais la véritable raison n'est pas donnée. On manque de courage moral, de volonté fortifiée et contrôlée par l'Esprit de Dieu pour renoncer aux habitudes nuisibles. Satan est maître dans l'art de faire naître des doutes, de soulever des objections au sujet du témoignage que Dieu envoie et beaucoup pensent que c'est une vertu, une preuve d'intelligence de ne pas y croire, de poser des questions et d'ergoter. Ceux qui désirent se livrer au doute auront pour cela de multiples occasions. Dieu ne se propose pas d'enlever tout ce qui pourrait donner lieu au scepticisme. Il donne l'évidence qui doit être examinée soigneusement avec humilité, et un esprit disposé à se laisser enseigner. Le poids de l'évidence devra alors être décisif. Dieu donne des preuves suffisantes à celui qui veut croire avec candeur. Mais quiconque se détourne de l'évidence parce qu'il y a quelques points que son intelligence bornée ne peut saisir, sera laissé dans l'atmosphère glaciale de l'incrédulité où sa foi fera naufrage. Satan a conçu le plan d'ébranler la foi du peuple de Dieu dans les témoignages. Il sait comment diriger ses attaques et il agit sur les esprits pour engendrer la jalousie et le mécontentement à l'égard des dirigeants de l'œuvre. Les dons sont ensuite mis en doute, et, naturellement, ils n'ont que peu de poids. L'instruction qui a été donnée en vision est négligée. Puis, c'est le scepticisme à l'égard des points fondamentaux de notre foi, piliers de notre mouvement. C'est le doute envers les saintes écritures et la marche vers la perdition. Lorsqu'on doute des témoignages auxquels on avait d'abord cru et qu'on les abandonne, Satan sait que ceux qui l'a séduit ne s'arrêteront pas là. Il redouble d'efforts jusqu'à ce qu'il réussisse à les jeter dans une rébellion ouverte qui devient irrémédiable et finit dans la destruction. En accordant une place au doute et à l'incrédulité à l'égard de l'œuvre de Dieu, en nourrissant des sentiments de méfiance et de cruelle jalousie, ses frères se préparent eux-mêmes une complète déception. Ils s'élèvent avec d'amers sentiments contre ceux qui osent parler de leurs erreurs et réprimer leurs péchés. Ceux qui rejettent ouvertement les témoignages, ou qui cultivent le doute à leur égard, ne sont pas seuls dans une position dangereuse. Négliger la lumière, c'est la repousser. Si vous perdez confiance dans les témoignages, vous vous éloignerez des vérités de la Bible. Je crains que beaucoup ne s'égarent dans le doute. Dans ma détresse pour vos âmes, je vous adresse un avertissement. Combien y prendront garde? Ignorer les témoignages n'est pas une excuse. Beaucoup agissent contrairement aux instructions que Dieu a données à son peuple, parce qu'ils ne lisent pas les livres qui contiennent la lumière et la connaissance dans des avertissements et des censures. Les soucis de la vie, l'amour de la mode, le manque de piété ont détourné leur attention des vérités que Dieu leur a si aimablement communiquées, tandis que des livres et des périodiques renfermant l'erreur circulent à travers tout le pays. Le scepticisme et l'incrédulité augmentent partout. La précieuse lumière, venant du trône de Dieu, est cachée sous un boisseau. Dieu tiendra son peuple responsable de cette négligence. Nous devrons rendre compte de chaque rayon lumineux qui a brillé sur notre route, soit qu'il ait contribué à notre avancement dans le domaine spirituel, soit que nous l'ayons rejeté parce que nous préférions aller au gré de nos caprices. Les ouvrages de l'esprit de prophétie et les témoignages devraient se trouver dans chaque famille d'observateurs du sabbat. Nos frères devraient être instruits de leurs valeurs et être encouragés à les lire. Cela n'a pas été une mesure sage que de les livrer à un prix dérisoire et de n'en placer qu'un seul exemplaire par église. Chaque famille devrait les avoir sur les rayons de sa bibliothèque afin de pouvoir les lire et les relire sans cesse. Qu'ils soient donc placés là où ils peuvent être lus par le plus grand nombre de personnes. Il m'a été montré que le doute en ce qui concerne les témoignages d'avertissement, d'encouragement et de blâme, prive le peuple de Dieu de lumière, lui fermant les yeux sur sa véritable condition. Certains croient que les reproches que contient le témoignage de l'Esprit de Dieu ne sont pas fondés ou qu'ils ne s'adressent pas à eux. Ceux-là ont un pressant besoin de la grâce divine et d'un discernement spirituel leur permettant de voir leur misère morale. Parmi ceux qui quittent la vérité, il en est qui, pour justifier leur attitude, déclarent qu'ils ne croient pas au témoignage. Abandonneront-ils l'idole que Dieu condamne ou persisteront-ils dans l'indulgence coupable? Rejetteront-ils la lumière reçue du ciel qui condamne les choses mêmes dans lesquelles ils se complaisent? La question qui se pose pour eux est celle-ci, suis-je prêt à renoncer à moi-même et à recevoir comme venant de Dieu les témoignages qui censurent mes péchés ou pousserai-je les témoignages parce qu'ils les réprouvent? Mauvais usage des témoignages. Le premier numéro des témoignages qui a été publié contient un avertissement contre l'usage peu judicieux de la lumière ainsi donnée au peuple de Dieu. Je déclarais que certains avaient manqué de sagesse lorsqu'il avait parlé de leur foi à des croyants, et que ceux-ci leur ayant demandé des preuves de ce qu'ils avançaient, ils avaient extrait ces preuves de mes écrits au lieu de s'en référer à la Bible. Il m'a été montré que cette manière de faire est inconséquente et qu'elle indispose les non-croyants à l'égard de la vérité. Les témoignages ne peuvent avoir aucun poids auprès de ceux qui ignorent l'esprit qui les a dictés. On ne doit pas s'y référer en de tels cas. De temps en temps, d'autres avertissements ont été donnés au sujet de l'emploi des témoignages. Certains prédicateurs sont fort retardés. Ils déclarent croire aux témoignages et font du mal en faisant une règle de fer pour ceux qui ne les connaissent pas alors qu'eux-mêmes n'en font pas leur profit. Des témoignages leur ont été maintes fois adressés, mais ils n'en ont tenu aucun compte. Leur manière d'agir n'est pas logique. J'ai vu que beaucoup de frères avaient profité de ce que Dieu avait montré au sujet des péchés et des erreurs des autres pour pousser à l'extrême le sens de ce qui avait été révélé en vision et l'imposer au risque de décourager et d'abattre l'Église et d'affaiblir la foi d'un grand nombre de fidèles, en ce que Dieu a montré. Critiquer les témoignages est un danger. Dans une récente vision, je me trouvais devant une assemblée dans laquelle certains s'efforçaient d'enlever l'impression d'un témoignage d'avertissement des plus solennels que je leur avais donné. Ils disaient, « Nous croyons au témoignage de la sœur White, mais lorsqu'elle nous parle des choses qu'elle n'a pas reçues directement en vision dans le cas particulier en question, ses paroles n'ont pas plus d'importance que celles de toute autre personne. » L'Esprit du Seigneur vint sur moi, et je me suis levé pour les réprimer au nom du Seigneur. Si ceux à qui ces avertissements solennels ont été adressés disent, « C'est tout simplement l'opinion personnelle de la sœur White, je vais continuer à suivre mon propre jugement », et s'ils continuent de faire ce qui leur a été défendu de faire, ils montrent clairement qu'ils méprisent le conseil de Dieu, et le résultat ne sera que ce que l'Esprit de Dieu m'a montré, entrave à la cause de Dieu et ruine pour eux-mêmes. Ceux qui désirent renforcer leur position feront ressortir des témoignages des déclarations qu'ils pensent pouvoir utiliser pour soutenir leur point de vue, et y mettront un accent aussi fort que possible. Mais celles qui contestent leur ligne de conduite ou qui ne cadrent pas avec leur point de vue, ils les qualifient d'opinion personnelle de Sir White, rejetant ainsi leur origine céleste et les plaçant au niveau de leur propre jugement. Maintenant, frères, je vous en conjure, ne vous interposez pas entre moi et les gens, pour détourner la lumière que Dieu voudrait leur communiquer. Ne permettez pas que vos critiques enlèvent la force, l'accent et la puissance des témoignages. Ne pensez pas que vous pouvez les disséquer pour soutenir vos propres idées, prétendant que Dieu vous a donné la capacité de discerner la lumière qui vient du ciel de ce qui n'est que l'expression de la sagesse humaine. Si les témoignages ne parlent pas en accord avec la parole de Dieu, rejetez-les. Christ et Bélial ne peuvent s'unir. Pour l'amour du Christ, n'embrouillez pas les esprits par des sophismes humains et le scepticisme, et n'annihilez pas les faits que l'œuvre de Dieu veut accomplir. Ne permettez pas à votre manque de discernement spirituel de faire de ce canal divin, un rocher de scandale, pour faire trébucher et tomber beaucoup de gens, qui seront enlacés et pris au filet. Ceux qui sont repris par l'Esprit de Dieu ne devraient pas s'élever contre l'humble instrument de son choix. C'est Dieu, et non un mortel sujet à l'erreur, qui leur a parlé pour les sauver de la perdition. La nature humaine n'aime pas recevoir des reproches, et il est impossible qu'un cœur qui n'a pas été éclairé par l'Esprit de Dieu puisse comprendre la nécessité de la répréhension, et la bénédiction qu'elle apporte avec elle. Quand un homme cède à la tentation et se complaît dans le péché, son esprit s'enténèbre, son sens moral se pervertit, il ne prête plus attention aux avertissements de sa conscience dont il distingue de moins en moins la voix. Petit à petit, il perd la faculté de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, à tel point qu'il ne voit plus sa position véritable devant Dieu. Il peut respecter les formes extérieures de la religion, défendre avec zèle ses doctrines sans en avoir l'esprit. Sa condition est celle qui est écrite par le témoin véritable, « Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Quand l'Esprit du Seigneur lui déclare par un message de blâme que c'est là sa condition, il ne peut croire à la vérité de ce message. Doit-il donc rejeter l'avertissement? Non. Dieu a donné une évidence suffisante pour convaincre du caractère des témoignages tous ceux qui le désirent, et après avoir reconnu qu'ils viennent de Dieu, les croyants devront accepter la répréhension même s'ils ne se voient pas nettement coupables. S'ils se rendaient pleinement compte de leur condition, pourquoi auraient-ils besoin de reproches? C'est parce qu'ils ne s'aperçoivent pas de leur état véritable que Dieu les avertit dans sa miséricorde afin qu'ils puissent se repentir et se réformer avant qu'il ne soit trop tard. Ceux qui méprisent l'avertissement seront laissés dans les ténèbres, s'étant séduits eux-mêmes. Mais ceux qui y prennent garde, se mettant à l'œuvre avec ardeur pour se débarrasser de leurs péchés et pour recevoir les grâces nécessaires, ouvriront la porte de leur cœur à leur Sauveur bien-aimé, afin qu'il entre chez eux et qu'il y demeure. Ceux qui sont le plus étroitement unis à Dieu sont ceux qui reconnaissent sa voix quand il leur parle. Quiconque est spirituel discernera les choses de l'esprit et sera reconnaissant au Seigneur de lui avoir signalé ses erreurs. David apprit la sagesse en considérant les voies de l'Éternel, et il accepta avec humilité le châtiment du Très-Haut. Le portrait fidèle que le prophète Nathan lui brossa de sa condition, révéla à David ses péchés, et l'aida à s'en débarrasser. Il accepta humblement le conseil divin et s'humilia devant Dieu. « La loi de l'Éternel est parfaite, s'écrit-il, elle restaure l'âme. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. Notre Seigneur a dit, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. » Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Quelque rigoureuse que soit la discipline, elle vient d'un Père rempli d'amour, afin que nous participions à sa sainteté.